Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
6h18, esprit d'initiative. Des cantines d'un nouveau genre ouvrent un peu partout à Paris et on y vient, Emmanuel Moreau, pour se rencontrer.
On parle beaucoup du vivre ensemble. Eh bien maintenant, il va falloir compter sur le manger ensemble. Antoine Desnaux, la trentaine, vient en effet de lancer un antidote à l'anonymat des grandes villes. Il ouvre des salles à manger dans la capitale pour réunir toutes ceux et celles qui n'ont pas envie de déjeuner seuls dans leur coin. Et s'il a choisi comme nom « Ma cantine partagée », ce n'est pas un hasard. Antoine.
On voulait rappeler ce côté évocateur de la cantine de l'école qu'on a tous connu, qui est un moment de lien social, un moment d'échange, de bonne humeur. C'est pareil avec la cantine d'entreprise, c'est des moments où on se rassemble et on discute de tout un tas de choses. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas faire la cantine de ceux qui n'ont pas de cantine et créons-la ensemble. C'est une sorte de cantine citoyenne. C'est un réseau qui existe, c'est ouvert à tous, chacun peut s'y rendre.
Mais Antoine, dans votre cantine, il n'y a pas de frites.
Et non, il n'y a pas le fameux steak frites, parce qu'on ne cuisine pas, effectivement. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible. C'est pour ça qu'on demande aux gens de rapporter leur propre repas. Après, si quelqu'un rapporte des frites, il sera le bienvenu tout de même. Mais chacun rapporte son repas et on partage tout au milieu de la table.
Ma cantine partagée s'adresse à qui ?
Alors, en fait, ça s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de cantine. Et ça peut être plein de gens différents. Par exemple, des freelances, des indépendants qui travaillent chez eux, des étudiants qui sont en train de réviser un peu tout seuls, des retraités, des intermittents du spectacle, des chômeurs ou des personnes en transition professionnelle. Bref, on a tous à un moment donné dans notre vie une occasion d'être un peu plus seuls. Et pourquoi pas avoir notre cantine à nous tous qui n'avons pas de cantine.
Et Antoine, tous ces lieux ne sont pas réservés à la restauration ?
Non, la grande majorité des cas, c'est des lieux qui ne sont pas des lieux de restauration. C'est plutôt des centres de quartier, des espaces de coworking, des associations, des start-up, des tiers-lieux, qui ont un enjeu à être ouverts sur leur quartier, tout simplement. Certains lieux ont des cuisines, qu'on peut aussi venir réchauffer son repas, voire même le cuisiner, pourquoi pas. Mais c'est pas, non, on est justement sur un modèle qui prend le contre-pied de la restauration classique.
Et Antoine, c'est du vécu, cette idée, elle vous est venue d'une expérience personnelle ?
Bah oui, tout à fait. Moi, j'ai été dans cette situation-là, en transition professionnelle, au chômage. Et c'est vrai que le passage de la vie très pressée, d'aller au bureau, de manger le midi avec les collègues, à la vie où on réfléchit, on prend un peu plus le temps et on est nécessairement un peu plus seul. Je l'ai vécu. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me dire « je ne dois pas être le seul, certainement pas ». Et donc, créons des lieux de rencontre pour le midi, où on vient, et ensuite, chacun va à ses occupations après l'après-midi, mais au moins, on a ce moment tous ensemble.
Et Antoine Desnaux compte très vite ouvrir d'autres lieux dans la capitale. Merci Emmanuel Moreau pour cet esprit d'initiative. Les adresses de ces cantines sont à retrouver sur franceinter.fr à la page du 5-7.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
6h18, esprit d'initiative. Des cantines d'un nouveau genre ouvrent un peu partout à Paris et on y vient, Emmanuel Moreau, pour se rencontrer.
On parle beaucoup du vivre ensemble. Eh bien maintenant, il va falloir compter sur le manger ensemble. Antoine Desnaux, la trentaine, vient en effet de lancer un antidote à l'anonymat des grandes villes. Il ouvre des salles à manger dans la capitale pour réunir toutes ceux et celles qui n'ont pas envie de déjeuner seuls dans leur coin. Et s'il a choisi comme nom « Ma cantine partagée », ce n'est pas un hasard. Antoine.
On voulait rappeler ce côté évocateur de la cantine de l'école qu'on a tous connu, qui est un moment de lien social, un moment d'échange, de bonne humeur. C'est pareil avec la cantine d'entreprise, c'est des moments où on se rassemble et on discute de tout un tas de choses. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas faire la cantine de ceux qui n'ont pas de cantine et créons-la ensemble, c'est une sorte de cantine citoyenne. C'est un réseau qui existe, c'est ouvert à tous, chacun peut s'y rendre.
Mais Antoine, dans votre cantine, il n'y a pas de frites.
Et non, il n'y a pas le fameux steak frites, parce qu'on ne cuisine pas, effectivement. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible. C'est pour ça qu'on demande aux gens de rapporter leur propre repas. Après, si quelqu'un rapporte des frites, il sera le bienvenu tout de même. Mais chacun rapporte son repas et on partage tout au milieu de la table.
Ma cantine partagée s'adresse à qui ?
Alors, en fait, ça s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de cantine. Et ça peut être plein de gens différents. Par exemple, des freelances, des indépendants qui travaillent chez eux, des étudiants qui sont en train de réviser un peu tout seuls, des retraités, des intermittents du spectacle, des chômeurs ou des personnes en transition professionnelle. Bref, on a tous à un moment donné dans notre vie une occasion d'être un peu plus seuls. Et pourquoi pas avoir notre cantine à nous tous qui n'avons pas de cantine.
Et Antoine, tous ces lieux ne sont pas réservés à la restauration ?
Non, la grande majorité des cas, c'est des lieux qui ne sont pas des lieux de restauration. C'est plutôt des centres de quartier, des espaces de coworking, des associations, des start-up, des tiers-lieux, qui ont un enjeu à être ouverts sur leur quartier, tout simplement. Certains lieux ont des cuisines, qu'on peut aussi venir réchauffer son repas, voire même le cuisiner, pourquoi pas. Mais c'est pas, non, on est justement sur un modèle qui prend le contre-pied de la restauration classique.
Et Antoine, c'est du vécu, cette idée, elle vous est venue d'une expérience personnelle ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai été dans cette situation-là, en transition professionnelle au chômage. Et c'est vrai que le passage de la vie très pressée, d'aller au bureau, de manger le midi avec les collègues, à la vie où on réfléchit, on prend un peu plus le temps et on est nécessairement un peu plus seul, je l'ai vécu. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de me dire « je ne dois pas être le seul, certainement pas ». Et donc, créons des lieux de rencontre pour le midi, où on vient, et ensuite, chacun va à ses occupations après l'après-midi, mais au moins, on a ce moment tous ensemble.
Et Antoine Desnaux compte très vite ouvrir d'autres lieux dans la capitale. Merci Emmanuel Moreau pour cet esprit d'initiative. Les adresses de ces cantines sont à retrouver sur franceinter.fr à la page du 5-7.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Le reportage grand angle, la pyramide du Louvre n'en finit plus de souffler ses 30 bougies. Après l'installation du street artist JR en mars et l'exposition au printemps consacrée à la construction du monument, place cet été au cinéma en plein air. Depuis vendredi dernier donc et jusqu'à demain soir, des films sont projetés dans la cour carrée du Louvre à quelques dizaines de mètres seulement de la pyramide de verre. Et hier soir, Alexis de Meyer, c'est un film dont l'action se situe en partie au Louvre qui était à l'honneur. Projection du Da Vinci Code.
14 ans après y avoir été tourné, le film de Ron Howard revient au Louvre par la grande porte. À la nuit tombée sur un écran de 25 mètres, les spectateurs voient apparaître Tom Hanks, Audrey Tautou ou encore Jean Reno. Parmi les 2800 spectateurs présents hier soir, beaucoup de fans évidemment du best-seller de Dan Brown. C'est le cas de Mina, venue des Yvelines pour l'occasion.
Quand j'ai lu le livre il y a 10 ans, je ne me serais jamais imaginé le voir au musée du Louvre. C'est assez dingue comme idée et ça va, on a eu de la chance parce qu'on a eu un petit peu d'air frais vers la fin et c'est une expérience vraiment inoubliable.
Alexandre aussi a eu très chaud, mais il repart de la cour carrée du Louvre avec des étoiles plein les yeux.
Évidemment, c'est extraordinaire puisqu'il y a quand même les premières scènes du film et la dernière scène qui se passe dans ce musée, donc c'est quelque chose de fort de voir ces scènes à l'intérieur du Louvre.
La projection de Da Vinci Code s'inscrit dans le cadre du festival Cinéma Paradiso, un événement organisé par le groupe MK2. Elisha Karmitz en est le directeur général.
C'est un événement de cinéma qui célèbre le 7e art, mais qui est un événement joyeux, festif, populaire. Il y a un avant, donc on peut boire un verre, s'amuser, danser, on organise des cours de danse. Ça permet de profiter de ce lieu qui est majestueux. Ce qui fait sens pour cet événement, c'est d'être un événement gratuit, c'est de pouvoir rassembler un maximum de gens et c'est de pouvoir transmettre la passion du cinéma.
Le 7e art qui a toute sa place au Louvre, selon Adel Ziane, le directeur des relations extérieures du musée.
C'est l'art qui rassemble par excellence. On y va en famille, on y va entre amis, on y va en couple. C'est ce qu'on a essayé de proposer dans la programmation durant cette semaine et on est très heureux parce que tous les soirs, on est complet.
Après, entre autres, la Reine Margot, Indiana Jones et Astérix, place ce soir au Voyage de Chihiro de Miyazaki. Et c'est la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally qui conclura demain soir cette première saison de cinéma en plein air au Louvre.
Le Da Vinci Code projeté au Louvre dans la cour carrée au pied de la pyramide. C'est un reportage grand angle d'Alexis de Meyer à retrouver sur franceinter.fr.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Le reportage grand angle, la pyramide du Louvre n'en finit plus de souffler ses 30 bougies. Après l'installation du street artiste JR en mars et l'exposition au printemps consacrée à la construction du monument, place cet été au cinéma en plein air. Depuis vendredi dernier donc et jusqu'à demain soir, des films sont projetés dans la cour carrée du Louvre à quelques dizaines de mètres seulement de la pyramide de verre. Et hier soir, Alexis de Meyer, c'est un film dont l'action se situe en partie au Louvre qui était à honneur, projection du Da Vinci Code.
14 ans après y avoir été tourné, le film de Ron Howard revient au Louvre par la grande porte. À la nuit tombée sur un écran de 25 mètres, les spectateurs voient apparaître Tom Hanks, Audrey Tautou ou encore Jean Reno. Parmi les 2800 spectateurs présents hier soir, beaucoup de fans évidemment du best-seller de Dan Brown. C'est le cas de Mina, venue des Yvelines pour l'occasion.
Quand j'ai lu le livre il y a 10 ans, je ne me serais jamais imaginé le voir au musée du Louvre. C'est assez dingue comme idée et ça va, on a eu de la chance parce qu'on a eu un petit peu d'air frais vers la fin et c'est une expérience vraiment inoubliable.
Alexandre aussi a eu très chaud, mais il repart de la cour carrée du Louvre avec des étoiles plein les yeux.
Évidemment, c'est extraordinaire puisqu'il y a quand même les premières scènes du film et la dernière scène qui se passe dans ce musée, donc c'est quelque chose de fort de voir ces scènes à l'intérieur du Louvre.
La projection de Da Vinci Code s'inscrit dans le cadre du festival Cinéma Paradiso, un événement organisé par le groupe MK2. Elisha Karmitz en est le directeur général.
C'est un événement de cinéma qui célèbre le 7e art, mais qui est un événement joyeux, festif, populaire. Il y a un avant, donc on peut boire un verre, s'amuser, danser, on organise des cours de danse. Ça permet de profiter de ce lieu qui est majestueux. Ce qui fait sens pour cet événement, c'est d'être un événement gratuit, c'est de pouvoir rassembler un maximum de gens et c'est pouvoir transmettre la passion du cinéma.
Le 7e art qui a toute sa place au Louvre, selon Adel Ziane, le directeur des relations extérieures du musée.
C'est l'art qui rassemble par excellence. On y va en famille, on y va entre amis, on y va en couple. C'est ce qu'on a essayé de proposer dans la programmation durant cette semaine et on est très heureux parce que tous les soirs, on est complet.
Après, entre autres, la reine Margot, Indiana Jones et Astérix, place ce soir au voyage de Chihiro de Miyazaki. Et c'est la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally qui conclura demain soir cette première saison de cinéma en plein air au Louvre.
Le Da Vinci Code projeté au Louvre dans la cour carrée au pied de la pyramide. C'est un reportage grand angle d'Alexis de Meyer à retrouver sur franceinter.fr.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Moi, j'ai fait du vélo depuis... Je suis passé professionnel en 2001 et j'ai arrêté ma carrière parce que je ne suis plus coureur cycliste, mais j'ai fait 15 Tours de France et j'ai fait 17 années de carrière chez les professionnels, donc jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai arrêté l'année dernière. Souvent, j'entends les gens dire « Oh, mais c'est impossible de faire tous ces kilomètres à vélo et de passer toutes ces montagnes. » En fait, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, il faut bien comprendre qu'un coureur cycliste, il s'entraîne depuis des années et toute l'année. Donc, bien sûr, le Tour de France, c'est difficile, mais les coureurs du Tour qu'on va voir à la télé, qu'on vous allez voir passer sur le bord de la route, ils sont tellement entraîné que ça en devient presque normal pour eux de faire un Tour de France. Pour être fort en vélo, il y a trois choses principales. Il faut savoir avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger et puis bien dormir, et beaucoup s'entraîner. L'entraînement, c'est plus dur que la compétition quasiment, l'entraînement, parce que c'est énormément de sacrifices. Donc il faut partir tôt le matin, des fois il pleut, il fait froid, il peut même neiger, on a des fois pas envie d'y aller, mais on est obligé de se forcer un petit peu à y aller parce que c'est un travail d'être coureur cycliste, c'est un vrai travail.
Document numéro 2.
Toute l'année, les coureurs sont contrôlés, justement, pour éviter qu'il y ait des tricheurs. Il y a encore des tricheurs, alors pas beaucoup, mais de temps en temps, il y en a qui se font prendre. Ça veut dire que on recherche les coureurs qui prennent des substances interdites. La nouveauté, c'est que maintenant, on contrôle plus seulement les coureurs, on contrôle aussi les vélos. Parce qu'on a soupçonné que certains coureurs avaient peut-être à un moment pu utiliser un moteur caché dans le vélo. Donc maintenant, les vélos sont contrôlés, ils sont passés au scanner, ils sont démontés des fois pour vérifier qu'il n'y ait pas de moteur dans le vélo. Comme un coureur va, après une course, il va faire tout simplement pipi dans un petit bocal et après on analyse les urines et grâce à ça, on peut savoir s'il a respecté les règles ou pas.
Document numéro 3.
La prochaine question, c'est Lou qui vous la pose.
Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ?
Alors oui, malheureusement, c'est un sport à risque, le vélo. Les coureurs, des fois, atteignent des vitesses supérieures, très souvent à 100 km/h dans les descentes. Donc c'est vrai qu'il y a eu des fois, il y a même eu sur le Tour de France, notamment, des morts. Maintenant, heureusement, c'est resté assez rare. En général, les coureurs sont quand même des guerriers, comme on dit. Et avec même s'ils sont râpés de partout et même ils se cassent quelque chose, des fois un doigt, ou tant qu'ils ne se cassent pas une jambe, le coureur, il continue, il reprend le départ le lendemain.
Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur, par exemple, quand on est à 100 km/h, qu'il y a beaucoup de cyclistes autour de soi? J'imagine que c'est assez impressionnant.
Il faut avoir un peu d'expérience, c'est vrai. Essayer d'aller à 100 km/h à vélo dans une descente, c'est vraiment réservé à quelques professionnels.
Oui, on joue pas à ça.
Mais non, et c'est vraiment réservé à une élite. Et pour répondre concrètement à la question, bien entendu que quand on atteint des vitesses qui avoisinent les 100 km/h sur des boyaux ou des pneus de 2,5 cm de large, avec des tout petits patins pour freiner, il y a quelques fois où j'ai eu peur, honnêtement.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Moi, j'ai fait du vélo depuis... Je suis passé professionnel en 2001 et j'ai arrêté ma carrière parce que je ne suis plus coureur cycliste, mais j'ai fait 15 Tours de France et j'ai fait 17 années de carrière chez les professionnels, donc jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai arrêté l'année dernière. Souvent, j'entends les gens dire « Oh, mais c'est impossible de faire tous ces kilomètres à vélo et de passer toutes ces montagnes. » En fait, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, il faut bien comprendre qu'un coureur cycliste, il s'entraîne depuis des années et toute l'année. Donc, bien sûr, le Tour de France, c'est difficile, mais les coureurs du Tour qu'on va voir à la télé, qu'on vous allez voir passer sur le bord de la route, ils sont tellement entraîné que ça en devient presque normal pour eux de faire un Tour de France. Pour être fort en vélo, il y a trois choses principales. Il faut savoir avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger et puis bien dormir, et beaucoup s'entraîner. L'entraînement, c'est plus dur que la compétition quasiment, l'entraînement, parce que c'est énormément de sacrifices. Donc il faut partir tôt le matin, des fois il pleut, il fait froid, il peut même neiger, on a des fois pas envie d'y aller, mais on est obligé de se forcer un petit peu à y aller parce que c'est un travail d'être coureur cycliste, c'est un vrai travail.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Toute l'année, les coureurs sont contrôlés, justement, pour éviter qu'il y ait des tricheurs. Il y a encore des tricheurs, alors pas beaucoup, mais de temps en temps, il y en a qui se font prendre. Ça veut dire qu'on recherche les coureurs qui prennent des substances interdites. La nouveauté, c'est que maintenant, on contrôle plus seulement les coureurs, on contrôle aussi les vélos. Parce qu'il y a eu, on a soupçonné que certains coureurs avaient peut-être à un moment pu utiliser un moteur caché dans le vélo. Donc maintenant, les vélos sont contrôlés. Ils sont passés au scanner. Ils sont démontés des fois pour vérifier qu'il n'y ait pas de moteur dans le vélo. Comme un coureur va, après une course, et ben, il va faire tout simplement pipi dans un petit bocal. Et après, on analyse les urines. Et grâce à ça, on peut savoir s'il a respecté les règles ou pas.
Document numéro 3, deuxième écoute.
La prochaine question, c'est Lou qui vous la pose.
Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ?
Alors oui, malheureusement, c'est un sport à risque, le vélo. Les coureurs, des fois, atteignent des vitesses supérieures, très souvent à 100 km/h dans les descentes. Donc c'est vrai qu'il y a eu des fois, il y a même eu sur le Tour de France, notamment, des morts. Heureusement, c'est resté assez rare. En général, les coureurs sont quand même des guerriers, comme on dit. Et avec même s'ils sont râpés de partout et même ils se cassent quelque chose, des fois un doigt, tant qu'ils ne se cassent pas une jambe, le coureur, il continue, il reprend le départ le lendemain.
Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur, par exemple, quand on est à 100 km/h, qu'il y a beaucoup de cyclistes autour de soi? J'imagine que c'est assez impressionnant.
Il faut avoir un peu d'expérience, c'est vrai. Essayer d'aller à 100 km/h à vélo dans une descente, c'est vraiment réservé à quelques professionnels.
Oui, on joue pas à ça.
Mais non, et c'est vraiment réservé à une élite. Et pour répondre concrètement à la question, bien entendu que quand on atteint des vitesses qui avoisinent les 100 km/h sur des boyaux ou des pneus de 2,5 cm de large, avec des tout petits patins pour freiner, il y a quelques fois où j'ai eu peur, honnêtement.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.